Donc l'idée de la conférence aujourd'hui que je voulais proposer, c'était donc le titre Portrait de Barbus en lecteur, avec le sous-titre Séparer le bon grain du livresque. L'idée c'était de pouvoir aborder un petit peu la manière dont Barbus envisageait la littérature, alors plutôt dans les années 1926-1927, dans une tribune littéraire qui va alimenter au sein du journal L'Humanité, dans la mesure où ça va être l'occasion pour lui de pouvoir donner un petit peu sa vision de la littérature auprès des lecteurs du journal. Pour commencer, je vais apporter un certain nombre d'éléments sur la vie et l'œuvre d'Henri Barbus, depuis sa naissance jusqu'à l'année qui va nous préoccuper, et puis on verra peut-être en conclusion pour le reste de sa vie. Donc Henri Barbus, il naît en 1873. Il est issu d'une famille, et ça c'est important, il est issu d'une famille cévenole de tradition protestante, avec un souvenir assez fort des aïeux camisards et des luttes qui ont été menées par les camisards. C'est des histoires qui lui ont été racontées par son père pendant toute son enfance, et ça va le marquer. Ça va faire naître en lui une certaine proximité avec une certaine culture religieuse, disons. Il entre dans la littérature dans les années 1890. Il est très intéressé par la poésie. Il va commencer très jeune à écrire de la poésie, à participer à des concours de poésie dans certains journaux de l'époque. Et il va être assez vite remarqué par Marcel Schwab et puis surtout Catulle Mendès, le grand Catulle Mendès, dont il va faire la rencontre à cette occasion-là, qui va le repérer et puis qui va le prendre un petit peu sous son aile. D'ailleurs, Barbus, par la suite, fréquentera beaucoup la famille de Catulle Mendès, et l'une de ses trois filles en particulier qu'il épousera par la suite, qui s'appelle Hélione Mendès. Cette appétence qu'il a pour la poésie va le conduire à publier sa première œuvre, qui est un recueil de poésie en 1895, qui s'intitule Pleureuse, qui connaît un certain succès dans les milieux poétiques et qui va lui permettre d'intégrer en fait le Paris littéraire, on va dire, et il va commencer à fréquenter un certain nombre d'écrivains, de poètes de l'époque. Alors je donne quelques noms comme ça histoire de situer un petit peu, mais il va fréquenter notamment Albert Samain, le poète assez peu connu du Jardin de l'Infante, très joli recueil, José María de Heredia, dont il fréquentera les soirées du jeudi, les salons du jeudi, Jules Renard, et puis quelqu'un qui va avoir une influence déterminante aussi pour lui, c'est un peintre, c'est Eugène Carrière. Eugène Carrière, dans l'esthétique, va avoir une influence sur lui, toute une esthétique du clair-obscur, du flou, d'une atmosphère toujours un peu vaporeuse, et puis d'un autre côté, Eugène Carrière, avec ses sympathies socialistes, participera d'une certaine manière à une première formation politique chez Barbus, en tout cas à l'ouvrir à ces idées-là. Lui qui n'y était pas jusqu'à présent très ouvert en fait. En 1903, il abandonne la poésie et puis il va publier un premier roman qui s'intitule Les Suppliants. Quelque chose qui est relativement proche de l'autobiographie, mais malheureusement pour lui qui ne rencontre qu'un succès d'estime et ça va profondément le troubler. Il s'en voit tellement affecté en fait qu'il pressent en lui qu'il a un destin de prophète. Lui, il dit vouloir devenir un crieur de vérité. Et en fait, c'est ça qui va déterminer finalement ensuite tout son parcours littéraire, d'essayer de pouvoir aboutir cette quête de devenir un crieur de vérité à travers son œuvre littéraire, en définitive. Quelques années plus tard, en 1908, il va publier L'Enfer, qui manque de peu le Goncourt, à une voix près, mais qui va lui permettre cette fois-ci de connaître une très très grande reconnaissance dans les cercles littéraires. L'Enfer, c'est un roman dans lequel il raconte le parcours d'un personnage qui est un personnage assez insignifiant, avec un métier assez insignifiant aussi, qui monte à Paris, qui s'installe dans une pension de famille. Et puis, alors qu'il est dans sa chambre, dans la pension de famille, un soir, il découvre que en haut du mur, juste en dessous du plafond, il y a un trou qui lui permet de voir ce qui se passe dans la chambre à côté. Et puis, il va, à travers ce trou qui lui permet de regarder dans la chambre à côté, pouvoir pénétrer l'intimité des gens et se rendre compte de la vérité vraie, nue, qu'il y a à travers ce regard de voyeur. Et en fait, il va finir par absolument tout quitter, se centrer sur ce trou, il le dit lui-même, se crucifier le long du mur pour regarder à travers ce trou et pénétrer l'intimité des gens et découvrir la vérité. Alors, quand je dis qu'il va y avoir une belle reconnaissance dans les cercles littéraires, c'est qu'on va aller jusqu'à comparer l'enfer de Barbus à l'enfer de Dante, en disant qu'il y a un souffle épique chez Barbus à ce moment-là et dans la qualité de son écriture qui va le rapprocher comme ça de Dante. Parallèlement, il va commencer à mener une intense activité journalistique. Il va être directeur de rédaction aux éditions Laffitte et il va collaborer à de nombreuses revues et fonder d'ailleurs de nombreuses revues. Donc, j'en cite une ou deux. Il va collaborer à la revue Femina. Il va participer à la fondation de la revue Je sais tout, une fondation un peu encyclopédiste de l'époque. Et puis il va publier un certain nombre de nouvelles aussi dans le journal Le Matin. Et parmi cette cinquantaine de nouvelles, il en sélectionnera quelques-unes en 1914 qu'il publiera sous le titre Nous autres, point de suspension. En 1914, la guerre éclate. Et là, c'est un tournant et un point de bascule véritablement dans son parcours. En fait, il y a deux Barbus. Il y a ce Barbus d'avant et le Barbus d'après. C'est un point de bascule notamment parce que Barbus, finalement, pour être exempté d'aller au combat, il a 41 ans quand éclate la guerre. En fait, il va tout faire pour finalement se retrouver envoyé en première ligne. Donc il va être intégré dans un régiment, il va servir pendant 15 mois au front. À la suite de ces 15 mois, il passera 2 mois comme brancardier, il passera à peu près 17 mois dans les tranchées. De tout ce qu'il va tirer, lui, au fur et à mesure de son expérience dans ses carnets, dans ses photographies, dans les lettres qu'il va envoyer à sa femme, etc., il va prendre ici, il va tirer toute la matière première d'un roman. Donc c'est le roman que à peu près tout le monde connaît de Barbus, le seul qu'à peu près tout le monde connaît de Barbus, qui s'intitule Le Feu. D'abord, il va être publié en feuilleton par Gustave Théry, qui est le fondateur du journal L'Œuvre, pendant l'année 1915, et il va connaître un tel succès qu'il va être publié ensuite en volume et connaître un succès absolument phénoménal. Tout le monde dans les tranchées va lire Le Feu, tout le monde le lira sous forme de feuilleton dans les tranchées. Ça va permettre en définitive à Barbus d'enfin trouver ce statut de crieur qu'il cherchait et devenir le prophète qu'il attendait d'être. Alors même si avec Le Feu, on a une dernière scène du roman qui tend quand même à un discours antimilitariste, pacifiste, ou... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a cette scène finale à la suite d'un bombardement où il y a tout un tas de blessés, etc., qui se retrouvent perdus sur le No Man's Land et qui finissent par tous se rapprocher les uns les autres en rampant et à discuter entre eux, et finalement à se dire que la guerre est une bêtise, qu'ils ont tous été envoyés là, qu'ils sont le prolétariat des tranchées, etc. Alors, on n'est pas encore dans un discours proprement socialiste, communiste, vers lequel il se tournera par la suite, mais on commence à percevoir ici quelque chose de nouveau et quelque chose de radical dans son parcours à lui, qui va lui permettre d'acquérir ce statut-là, véritablement. Et donc, à la suite de ça, il va s'appuyer sur ce succès qu'il va rencontrer avec Le Feu pour pouvoir commencer à publier un certain nombre d'articles, et notamment d'articles politiques, dans un certain nombre de journaux, le Populaire, le Populaire de Paris, l'Humanité, etc., etc. Il va commencer à jouer un rôle aussi de militantisme un petit peu plus, puisqu'en 1917, il va fonder, avec Raymond Lefebvre et Paul Vaillant-Couturier, il va fonder l'Association républicaine des anciens combattants, l'ARAC. Et puis en 1919, avec la publication de Clarté, qui est le deuxième roman qu'il va consacrer à la Première Guerre mondiale, là on a une vraie rupture dans son œuvre, qui va l'amener à une position politique beaucoup plus radicale, puisque le roman raconte l'itinéraire d'un personnage qui est un petit fonctionnaire de campagne dans la première partie du roman, qui se pose pas beaucoup de questions sur la politique, qui va vivre son expérience des tranchées, qui va être décrite d'ailleurs par Barbus comme le chemin de Damas du personnage. Donc il y a vraiment toute cette imagerie-là qui revient dans le roman, et qui va l'amener ensuite, le personnage, à défendre des idées, là pour le coup, qui relèvent d'un socialisme radical, voire de ce que pourra donner ce communisme propre à Barbus. 1919, c'est l'année aussi, à la suite de la publication du roman, du mouvement Clarté en collaboration avec Romain Rolland. L'objectif étant de ce mouvement Clarté, qui va s'appuyer ensuite sur une revue, la revue Clarté, ça va être de pouvoir rassembler les intellectuels autour d'une démarche pacifiste. Donc c'est autour de ça que va s'articuler toute la scène pacifiste, si vous voulez, dans la France de l'entre-deux-guerres. Et c'est ce mouvement Clarté et ce binôme qu'il va former avec Romain Rolland qui contribuera par la suite à donner naissance au mouvement Amsterdam Pleyel dans les années 32-33, le mouvement antifasciste du coup. Donc à partir de là, on amorce vraiment la démarche politique chez Barbus. En 1920 et 1921, il va publier coup sur coup trois œuvres qui sont des écrits politiques. Le premier, La lueur dans l'abîme. Le deuxième, c'est tout le recueil des articles politiques qu'il a publiés pendant 2 ans, qu'il va recueillir sous le titre Parole d'un combattant, parole au pluriel. Et puis le dernier, ce sera Le couteau entre les dents. Là, l'image est parlante, hein. Et désormais, voilà, l'œuvre littéraire de Barbus est absolument indissociable de son parcours politique. En 1923, il adhère officiellement au Parti communiste par le biais d'un article, et il va commencer à partir de là à entretenir des liens beaucoup plus serrés avec l'URSS. Il va se rapprocher de Lénine, qui ne cessera de saluer la qualité du feu, de Gorki et puis de Staline. En 1920, Et 1927, c'est toute une période pendant laquelle Barbus va lutter contre les mouvements de la droite chrétienne. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler parce que ça fait aussi l'objet des articles dont on aura l'occasion qui font le sujet de cette conférence aujourd'hui. Mais sa pensée politique va commencer à s'articuler beaucoup autour de questions spirituelles qui finalement ne l'ont jamais quitté. Et on va voir à partir de ce moment-là que finalement la perception qu'il se fait de son combat politique et du communisme d'une manière générale va de pair avec une dimension spirituelle qu'il n'hésite pas, lui, à qualifier de mystique. Il parle lui-même de mysticisme. Et puis en 1926, donc, on est juste au moment justement de la rédaction des critiques littéraires qui font l'objet de la conférence, il publie en parallèle le premier ouvrage d'une trilogie consacrée à la figure de Jésus, aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc l'ouvrage s'appelle Jésus. C'est un évangile selon lui-même, dans lequel il dresse le portrait d'un Jésus qui est en fait le premier marxiste de l'histoire. Et précisément, c'est important parce que c'est l'occasion pour lui, du coup, de faire enfin la synthèse entre sa pensée politique et puis ce qu'il revendique comme étant son mysticisme à lui. Et c'est dans ce cadre-là que cette même année, il va être sollicité pour tenir des fonctions au sein du journal L'Humanité. On est au printemps 1926 et il est sollicité par Paul Vaillant-Couturier et Marcel Cachin, eux-mêmes sollicités par le PCF, pour redonner un peu de vigueur à L'Humanité qui perd un peu de souffle. Parmi les missions qui leur sont données, il leur est demandé de redynamiser aussi sur le plan culturel la ligne de l'humanité, et pour ça ils vont faire appel à Henri Barbus et ils lui proposer d'être le directeur littéraire de l'humanité. Alors Barbus, à son tour, va s'entourer d'une équipe avec qui il va collaborer pendant cette année et demie. Pareil, je vais essayer de citer des noms. Il s'entoure de Jean-Richard Bloch, il s'entoure d'Henri Poulaille, il s'entoure de Léon Bazalgette et puis il s'entoure de Victor Serge. Donc c'est des noms qu'on connaît, hein, dans ces milieux-là, qui n'étonnent pas du tout. Entre mai 1926, date de sa prise de fonction, et puis octobre 1927, Barbus va publier 65 articles critiques tous les mercredis. Il va inaugurer cette série d'articles littéraires le 28 avril 1926 avec un article qu'il intitule « Un nouvel élan », dans lequel il nous explique que les arts et les lettres sont des agents de la Révolution et qu'il y a donc nécessité pour lui à réconcilier enfin, dit-il, à réconcilier enfin les intellectuels et les ouvriers. Et en fait, c'est ça qui va donner le sens de toute sa démarche. Le projet donc de cette tribune littéraire suit deux perspectives pour lui. D'abord, il y a l'idée de réduire, et là je cite ses propres mots, hein, de réduire l'influence de la littérature bourgeoise, d'une part, et de promouvoir, je cite, l'enfantement de l'art populaire de demain. Donc on voit bien ici cette double nécessité de lutter contre une littérature bourgeoise, voire grand-bourgeoise, telle qu'il la définira, et puis de pouvoir poser un petit peu les bases de ce que lui considère être comme cet art populaire, cette littérature prolétarienne. Il poursuit dans cette même idée le 5 mai 1926 avec un nouvel article qui s'intitule cette fois-ci L'art prolétarien. Donc là, il précise un petit peu les grandes lignes de sa pensée. Il entend faire œuvre. J'utilise un peu un anachronisme, mais il entend faire œuvre d'éducation populaire. Son désir ici est d'initier le prolétariat à se dégager d'une tradition bourgeoise, évidemment, pour pouvoir faire naître une littérature véritablement prolétarienne. Alors, il établit dans cette volée d'articles un programme qui revient régulièrement sous sa plume, régulièrement, de semaine en semaine, de mois en mois. Il va continuer de revenir sur ce programme-là. Il le met en forme de façon définitive dans un article qui s'intitule Le présent et l'avenir, qui constitue en vérité une lettre ouverte et un appel aux intellectuels. Pour lui, les trois points de cet appel aux intellectuels. Le premier point, sur lequel je ne m'attarderai pas parce qu'il nous concerne un petit peu moins aujourd'hui, c'est l'idée de rapprocher les travailleurs manuels et les travailleurs intellectuels. Le deuxième point, c'est de lutter, dit-il, contre la propagande réactionnaire et archaïque de l'idéologie et de la culture bourgeoise. Et le troisième point, c'est de dégager et d'aider l'éclosion d'un art collectif. Donc c'est en fait ces deux points-là autour desquels j'ai décidé d'articuler la présentation que je vous fais aujourd'hui. Donc, en commençant par ce premier point central dans sa pensée, cette mise en demeure d'une littérature bourgeoise, voire grand-bourgeoise. Alors, il y a tout d'abord le soin chez Barbus de bien identifier, à l'intention des lecteurs évidemment, ceux qu'il juge comme des écrivains purement bourgeois, et d'établir les caractéristiques de leur style et de leur pensée. Alors des noms, là encore, on peut en dresser une petite liste. Jean Giraudoux, Monterland, Henri Duvernois, Jean Cocteau, Maurras, Barrès, Mauriac, et Paul Morand. Et alors il va exprimer d'abord de manière assez générale les griefs qu'il a à leur encontre dans un article qui s'intitule Les cas exceptionnels. Et dans cet article, je cite, il écrit, il n'y a guère dans l'ordre présent des choses que de la littérature bourgeoise autour de nous. Et il est bien peu d'auteurs jeunes ou vieux qui ne se rattachent à la tradition bourgeoise par un fil essentiel, l'idéologie ou la sentimentalité ou la technique artistique. Et ces trois points-là, j'ai décidé moi de m'en saisir là aujourd'hui pour pouvoir dresser un petit peu le bilan de justement des reproches qu'il fait à cette littérature et à ces auteurs qu'il considère comme bourgeois. Donc là, je me propose d'évoquer d'une part l'idéologie, d'autre part la sentimentalité, ce qu'il entend par sentimentalité, puis dans un troisième point, ce qu'il entend par technique artistique. L'idéologie dans un premier temps. Alors finalement, et c'est là où c'est assez paradoxal, du point de vue de l'idéologie, en fait, on s'aperçoit que, disons-le tout de suite, c'est assez peu politique. En définitive, quand il parle d'idéologie ici, c'est du politique, mais qui est avant tout lié à des questions d'ordre religieux. C'est toutes des œuvres qu'il condamne qui relèvent du catholicisme auquel Barbus est farouchement opposé, notamment parce que ça s'inscrit là dans le cadre d'une querelle qu'il mène, alors j'en ai parlé un petit peu en introduction, mais depuis le début des années 20, avec les cercles néo-catholiques regroupés autour d'un certain nombre de personnalités, dont Henri Guéon, par exemple, qui mène un parti qui se faisait appeler le parti de l'intelligence, en gros. Et il va y avoir une querelle entre Barbus et tout le mouvement Clarté, et puis ce fameux parti de l'intelligence, autour de ces questions du néo-catholicisme et du thomisme. Alors, il met vraiment les pieds dans le plat à l'occasion d'un article qu'il consacre au cas de Jean Cocteau, puisqu'il fait ici, dans cet article, le récit de sa conversion, conversion que Cocteau va faire sous le patronage de Jacques Maritain. Le titre de l'article de Barbus est absolument sans équivoque et s'appelle Acrobatie en plein ciel. Il dit à propos de cette confession de Cocteau, cette confession si copieuse en charlatanisme littéraire, où brille d'une façon si magistrale l'absence d'esprit critique, de sens du ridicule et pour tout dire, de dignité. Donc l'attaque en définitive porte avant tout, en ce qui concerne l'idéologie, sur cette influence qu'exercent en définitive les mouvements néo-catholiques et néo-thomistes, le renouveau de la pensée de saint Thomas d'Aquin à travers le discours que porte sur lui Jacques Maritain en particulier, en fait qui représente tous les mouvements d'une certaine droite chrétienne hein, et de l'influence qu'elle peut avoir sur la littérature à cette époque-là. On a une condamnation similaire qu'il fait à l'encontre d'un hebdomadaire qui s'intitule Les Nouvelles Littéraires, dans un article qui porte le nom des maladies de la littérature actuelle, article de Barbus, dans lequel il dit, je cite, Les Nouvelles Littéraires, la plus importante gazette de l'activité littéraire, sentent à plein nez l'antichambre de ministère et même la sacristie. C'est une manière de magasin d'objets de piété qui recommande spécialement à sa clientèle le néo-catholicisme ou le thomisme. Et en fait, ici, on s'aperçoit que c'est une façon pour lui de porter une récrimination à l'encontre de tout ce qu'il y a de bourgeois dans le catholicisme. Il s'en explique de manière un peu plus précise dans l'article consacré à Cocteau, Acrobatie en plein ciel, quand il dit « Je le répète, la religion a aujourd'hui fini son temps. Elle tient peut-être aux mœurs et surtout au calcul de la société bourgeoise, mais elle n'adhère même plus à sa mentalité. » Donc ça va cristalliser les attaques idéologiques que Barbus va mener contre tous ces écrivains, Giraudoux, Cocteau, Morand, etc. Dans un autre de ses articles qui s'intitule Bella martyre de la bourgeoisie, je cite, il écrit Ce livre, comme celui dont je parlais la semaine passée, est un type de série et fait toucher du doigt les tares d'une espèce de littérature qui me paraît en ce moment à la fois à son apogée et à sa décadence. La matière, les intentions et l'esprit de cette littérature nous permettent de la qualifier de littérature grand bourgeoise. Il s'agissait ici d'un article consacré à une œuvre de Jean Giraudoux. Et en fait, on s'aperçoit ici qu'il s'agit en définitive ni plus ni moins que d'une critique de parti. Donc l'idéologie, bien qu'elle demeure une critique de parti ici, finalement met en demeure la bourgeoisie pour l'héritage catholique qu'elle tient en elle, moins pour sa dimension politique à proprement parler. Le deuxième point qu'il avait soulevé dans son article que je citais précédemment, c'est celui de la sentimentalité. Alors, ce qu'entend Barbusse ici par sentimentalité, quand il fait le reproche de cette sentimentalité à ses écrivains bourgeois, justement, ça correspond chez lui finalement à une vision qui serait non matérialiste de la littérature, matérialiste à entendre au sens marxiste du terme. De dresser un portrait de personnages, des galeries de personnages, mais sans jamais en faire la synthèse critique. Quasi la totalité des reproches qu'il va faire du coup à ses contemporains, ça va être autour de cette idée-là qu'elle va s'articuler. Je cite, il commence par dire dans le présent et l'avenir, l'art et la littérature sentent la décadence comme le reste. Je ne retiens que les titres de chapitres du trop long réquisitoire qui se dresse de lui-même, deux points, abondance mais chaos, culte du détail, argutie, analyse quintessence C. Sic, synthèse maladroite et incomplète, contradiction, remise à neuf des vieilles superstitions, ignorance, confusion, désordre. Donc là, en définitive, il va commencer à poser les causes de ce qu'il considère être, lui, un certain confusionnisme qu'on retrouve dans toute cette littérature grand-bourgeoise, qui en fait s'articule autour de trois points. L'idée d'un psychologisme effréné qui l'insupporte. Ce qui va avec, c'est une petitesse de vue. Et puis un manque d'esprit de synthèse. Dans un autre de ses articles, qui s'intitule De l'un à l'autre, il reviendra sur cette idée et écrira: Il faut noter comme une fâcheuse tendance de la jeune école cette habileté maniaque qui rend interminable et abstraite la description intérieure. Des romanciers d'une intelligence incontestable et d'une grande virtuosité en arrivent à se cantonner dans ces opérations de dissection, et il advient qu'ils ne savent plus mettre debout un être vivant ou même simplement un caractère dans leur laboratoire littéraire. Il serait désirable que des hommes de valeur sacrifiassent davantage à la vie. Alors on voit bien ici tout l'héritage de Zola qui est le sien et sur lequel on aura l'occasion de revenir un petit peu plus loin. Ici, gardons bien en tête que quand il dit qu'il faudrait qu'ils sacrifiassent davantage à la vie, par la vie, en définitive, il fait ici directement allusion au réel, ce qu'il considère être le réel, et qui vient s'opposer à cette obsession qu'il perçoit de la vie intérieure qui caractérise selon lui cette littérature contemporaine. Et à travers là, on perçoit aussi la condamnation sans détour, mais il n'est pas le premier ni le seul à le faire, d'une école très largement influencée par Paul Bourget, l'auteur du Disciple. En l'occurrence, Barbusse fait effectivement partie de cette génération d'écrivains qui refusent catégoriquement cet héritage de Paul Bourget, celui du roman à thèse, celui de l'analyse de mœurs, celui de la perspective moraliste, qui fleure la poussière de leur point de vue, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, au regard de Barbusse, il s'en expliquera dans un autre article dont le titre aussi est absolument équivoque, Littérature bourgeoise foire aux veaux. À propos de Giraudoux, Mauriac et Duvernoy, il dira qu'ils sont de ceux que l'ombre de Proust empêche de dormir, qui sont hypnotisés par le squelette de Stendhal et qui ressemblent au mot psychologie en personne. Donc en définitive, cette sentimentalité dont il est question là chez Barbusse et qui est l'un des reproches qu'il va formuler est condamnable dans la mesure où en fait elle enferme les écrivains dans le domaine de l'individuel. On le voit bien, c'est ça l'idée, elle les enferme dans le domaine de l'individuel. Et l'individuel, à l'opposé du collectif, ne leur permet pas de voir les choses en grand et ne suppose du coup, de son point de vue, aucune prise de politique et aucune prise de position, qu'elle soit sociale ou politique. Le troisième point après l'idéologie et la sentimentalité, c'est celui de la technique artistique. Donc pour introduire sur ce point-là, il écrit encore dans Bella, martyr de la bourgeoisie, à propos de Giraudoux, il écrit que dans l'œuvre, le tout reste factice, sans volume, sans densité, sans organisme. Portrait d'automate exécuté avec une extraordinaire abondance de touches, mais une sécheresse d'analyse prodigieuse. Et là, on voit en définitive qu'il entre un petit peu plus dans le détail de ce qu'il nous disait à propos de cette sentimentalité. Il y revient d'ailleurs, et on le comprend à travers le titre d'un de ses articles qui s'intitule Les cas exceptionnels. C'est bien ça l'idée en fait, hein, c'est de s'enfermer dans le cas particulier et dans la description psychologique, et qui ne permettra pas aux auteurs d'en sortir. Dans le même article, il écrit encore: La matière, les intentions et l'esprit de cette littérature nous permettent de la qualifier de littérature grand-bourgeoise. Et ce livre-là, pièce à conviction, toujours le même, celui de Giraudoux. Et ce livre-là, pièce à conviction assez sensationnelle, nous permet aussi de caractériser dans le plan de l'art comme dans celui de la vie l'énorme illusionnisme de l'idéal bourgeois, son rayonnement creux, son inconsistance encyclopédique et les voies artificielles par lesquelles il procède. Donc par là, en définitive, on voit bien qu'il synthétise ses vues sur les points qu'on a déjà exprimés, en définitive idéologie et sentimentalité. Et c'est à partir de là que va se cristalliser tout l'art polémique de Barbusse. C'est pas évident, parce que c'est une facette assez nouvelle de sa plume. Jusque-là, c'est pas quelqu'un de tout à fait polémiste. Et on le découvre à cet instant lorsqu'il écrit par exemple à propos de Giraudoux et Paul Morand. Jean Giraudoux et Paul Morand sont les deux principaux fonctionnaires de la mode et attachés d'ambassade des lettres françaises. Il dira par la suite dans l'article Littérature bourgeoise foire aux veaux à propos d'Henri Duvernois, qui est d'ailleurs intéressant parce que c'est un proche de Paul Bourget. Il est le monteur et le montreur des spécimens les plus veuls, les plus médiocres et les plus écœurants de la bourgeoisie actuelle. Duvernois, mon vieil ami, tu as du talent et de l'esprit, mais tu manques de foi. On y reviendra. On y reviendra, c'est important, cette question de la foi ici. Et puis à propos de Paul Morand, on continue dans le même ton, et toutes ces critiques se rattachent à la même critique. Paul Morand ne va jamais au fond des choses. Donc c'est bien ça ce qui le chagrine. Ne va jamais au fond des choses. Il ne veut pas ou ne peut pas atteindre la vision d'ensemble. Les idées qu'il nous expose ne sont qu'une série de lieux communs et de vieilleries remises à neuf par des coups de baguette artistiques. L'article s'intitule « Lanterne magique ». Alors, au demeurant, malgré cela, il reste important quand même de dire que même s'il condamne sans détour ses écrivains sur ces trois points-là, celui de l'idéologie, de la sentimentalité et de la technique, il n'en demeure pas moins qu'il reste en général assez dithyrambique en ce qui concerne leur style à proprement parler, et il n'hésite pas d'ailleurs à saluer leur style quand il le juge nécessaire. Justement, il y consacre un article, enfin il va y consacrer une série de deux articles à la question du style, deux articles qui vont s'intituler « À propos des mots, matière première du style ». Et il écrit notamment « Giraudoux et Paul Morand nous avaient déjà agréablement surpris par un saisissant impressionnisme. Paul Claudel nous avait frappés avec un ample lyrisme vigoureusement marqué et Jean Cocteau nous charma plus d'une fois avec les délicatesses et la distinction de sa ligne d'estampe. » Donc on voit ici que même s'il leur tient rigueur sur tous les points qu'on a déjà évoqués, en définitive, sur la question du style, il leur trouve malgré tout quelques qualités quand même. Dans le flot de ses articles, de ses 65 articles critiques, il va aussi prendre le temps d'étudier la tradition notamment du 19e siècle, au regard d'aujourd'hui, de l'époque qui est la sienne en définitive. On a quelques articles de Barbus dans lesquels il va s'exprimer sur des auteurs du 19e. Pas beaucoup. Il va en retenir quelques-uns. Je commencerai par Maupassant, parce qu'il me semble que Maupassant est le cas le plus intéressant en ce qui concerne le regard que porte Barbus sur la littérature du 19e. C'est intéressant parce qu'il va cristalliser le jugement qu'il va le porter sur Maupassant, va finalement cristalliser l'opinion qu'il porte sur les auteurs de sa propre génération à lui, ceux dont on vient de parler là justement. Il va dire que Maupassant est un écrivain, je cite, hein, est un écrivain purement bourgeois, et il dira à propos de lui aussi que malgré les révélations de la vie, il ne s'était pas détaché de certaines tendances fondamentales de sa classe, bourgeoise évidemment, et de certains sophismes idéologiques. Bourgeois, évidemment. Il va encore plus loin dans la suite de l'article en disant « Ce manque de sens social, cette méconnaissance du lien collectif, on parle bien de Maupassant, ce manque du sens social, cette méconnaissance du lien collectif, ce refus de prendre parti et de se formuler une conception d'ensemble, casse en morceaux et rend stérile tout ce qui se réalise d'esprit critique dans l'œuvre de Maupassant, il l'empêche de conclure et en font un amateur. » Maupassant, mais aussi Victor Hugo. Alors, malgré toute l'admiration qu'il porte à Victor Hugo, puisqu'il a deux modèles dans son enfance, c'est Victor Hugo et Émile Zola, il reviendra toujours à ces modèles-là. Malgré tout, il formule à peu près le même reproche à l'égard de Victor Hugo et en fait plus largement à propos du romantisme, de manière plus large. Alors l'article s'intitule sobrement Victor Hugo. Je cite, il dit « La révolte romantique aurait été plus pathétique et plus redoutable si elle avait mieux fouillé ce qu'elle n'a fait qu'agiter, et si partant du grand principe nouveau qui met le salut des hommes aux mains des hommes eux-mêmes, elle avait eu l'audace de conclure dans tous les sens, contre toutes les traditions, comme elle a eu l'audace de briser les fétiches les plus visibles. » Et il poursuit, en resserrant le sujet autour de Victor Hugo en particulier, « Quant à son idéologie, elle n'était que généreuse et éloquente, et elle n'a fourni qu'un bagage assez informe de panthéisme et de pacifisme sentimental qu'un grand fossé sépare de la réalité. » Revient là, en définitive, hein, ce qui relève dans le vocabulaire de Barbus d'un soupçon de sentimentalité, ce dont il était question un petit peu avant, à travers cette critique qu'il fait en définitive du syncrétisme qu'on peut reprocher, qu'on a reproché d'ailleurs à Victor Hugo, et de ses positions qu'on pourrait qualifier d'humanitaristes, si on veut quoi. Évidemment, on perçoit ici le biais qui est celui de Barbus, qui consiste en fait à envisager ses œuvres de Maupassant, de Victor Hugo, etc., dans une espèce d'absolu. Et en fait, on voit bien que ce qu'il cherche à faire ici, dans une certaine manière, c'est d'essayer de mesurer leur degré de convergence avec les principes du matérialisme marxiste. Ce qu'il cherche à faire, en définitive, c'est à fournir à ses lecteurs, et c'est ce qu'on comprend entre les lignes, il cherche à donner à ses lecteurs les outils qui doivent leur servir à établir la conformité des œuvres littéraires qu'ils vont pouvoir lire avec l'idéal revendiqué qui est celui d'une littérature plus proprement prolétarienne et révolutionnaire. En fait, il cherche ici, dans une visée un peu plus didactique, à aiguiser l'esprit critique finalement des lecteurs de l'Humanité qui liront ses articles critiques. Il y en a malgré tout qui trouvent grâce quand même aux yeux de Barbus. On devine aisément lesquels. Le premier, Balzac. Alors justement, dans un article qui s'intitule Les cas exceptionnels et qui est consacré à Mauriac et à sa, je cite, folie du cas exceptionnel, il dit: pour que l'on s'intéresse au sens profond et humain du mot à un personnage de roman, il faut que l'on puisse généraliser le portrait que l'on a devant les yeux à un milieu ou à une société. C'est par ce moyen qu'un Balzac nous arrache passionnément aux faits et gestes de ses héros et de ses héroïnes. Ceux-ci représentent un lieu ou une époque. Ils ont une valeur documentaire qui les ajuste à un fragment du monde, c'est-à-dire au monde. Sur Zola, on est à peu près dans la même idée. Il va un petit peu plus loin malgré tout. Il nous dit dans un article qui s'intitule Zola, la science et la société, il écrit, je cite, « Et nous avons parfaitement le droit de dire que cette œuvre est révolutionnaire, on attendait le mot déjà, révolutionnaire, moins à cause des idées démocratiques très nobles qui l'animent que parce qu'elle montre à nu sur l'espace d'un quart de siècle la pourriture d'en haut et la misère d'en bas. » Voilà bien la quête qui était celle de Barbus, et ce qui nous amène maintenant à essayer de comprendre ce que lui entend par cette littérature prolétarienne et la manière dont il entend, si vous voulez, donner une définition de ce qu'il considère lui comme étant l'art prolétarien. En définitive, c'est pas si facile à définir puisque ça passe toujours chez lui par la condamnation de ce qui en est à l'opposé. On en a toujours une définition en négatif. On voit où il veut en venir, mais les contours demeurent assez flous de sa propre pensée à lui, finalement. Dans l'un des premiers articles de cette série d'articles critiques, il écrit, cet article c'est l'art prolétarien, il écrit d'abord la théorie de l'art pour l'art, théorie creuse qui ôte l'art de la vie, en fait un ornement abstrait et change l'artiste en une sorte d'acrobate d'un cirque imaginaire, et qui aujourd'hui, comme tant de superstitions intéressées, a repris du crédit. Il poursuit un peu plus loin en disant: notre tâche sera ici de hâter sa venue à cet art encore latent, comme les grands événements, de susciter l'art révolutionnaire parallèle à la révolution. Il ajoute: tel est le sens de notre matérialisme littéraire et artistique. Bon, on voit bien l'idée, on l'avait deviné, on l'aperçoit maintenant clairement, il le dit, il pose le mot matérialisme littéraire et artistique. De là à s'en expliquer, on n'a pas tellement de réponses. Il nous donne des pistes. Paradoxalement, les seules réelles pistes qu'il va nous donner, elles exigent de regarder vers le passé. Il ne cherche pas à appeler à des formes nouvelles, mais au contraire à aller rechercher vers le passé, à ressusciter, le mot est de moi, mais il lui conviendrait tout à fait, à ressusciter des formes anciennes et à les remettre au goût du jour. Alors là, voilà, ça va donner lieu à un développement un peu plus précis sur sa vision des choses, toujours dans l'article qui s'intitule L'art prolétarien. Là, c'est intéressant, il écrit: il y eut des époques où un art populaire, un art quasi anonyme de masse, alimenté par l'espoir ou le désespoir commun des pauvres, des travailleurs et des opprimés, a fait converger dans l'histoire certains côtés de sa vision grandiose et certains accents de son cri pathétique. Deux points. Les cathédrales, les grands mystères multiformes, prières collectives, les lieds tristes ou joyeux qui vibrent dans la gorge des antiques chansons des provinces. Les époques diffèrent entre elles, nous le savons bien. Nous n'avons pas à revenir à ce passé servilement. Il était faussé et encombré de la superstition. Mais il avait cependant dans son effusion une pureté et une opulence que le classicisme a mutilée par sa centralisation politique de classe et que nous devons reprendre à notre compte pour nos spacieuses assises neuves. On voit donc ici que ces spacieuses assises neuves doivent prendre appui sur ces formes anciennes, puisqu'elles remontent à l'époque médiévale. Et là, il y a du coup, à mon sens, ici, il y a trois, quatre perspectives intéressantes à retenir. D'abord, c'est qu'il s'appuie sur des modèles qui sont pour l'essentiel des modèles médiévaux. Il y a une résurgence romantique d'une certaine manière. Ce qui me paraît intéressant ici, c'est qu'il conçoit le Moyen-Âge ici, dans la manière dont il en parle, comme un âge prolétarien, en définitive. Le deuxième point, à mon avis, digne d'intérêt ici, c'est que s'il évacue évidemment tout de suite tout soupçon de superstition, il demeure que tous les modèles évoqués ont un lien avec la spiritualité. Et ça, c'est parce que, je l'ai dit à demi-mot dans l'introduction, mais c'est parce qu'en définitive, toute la conception du marxisme selon Barbus doit avoir une assise spirituelle, essentiellement. C'est le sens de toute la réflexion qu'il mène à cette période-là dans la trilogie sur Jésus. Troisième point qui peut être intéressant aussi, dans l'évocation de ces formes anciennes, il évoque la forme particulière du mystère. La forme du mystère, c'est quelque chose qu'il travaille depuis déjà très longtemps, depuis son adolescence. Il va écrire deux œuvres qu'il va apparenter à des mystères. Donc en 1897, déjà, il avait travaillé sur un projet d'une pièce qui devait s'intituler Le mystère d'Adam. Alors c'est une pièce qui est restée inachevée, mais dont en définitive, il s'est servi pour en incorporer des morceaux ici et là dans son roman qui s'intitule L'Enfer. Et le mystère revient encore sous sa plume, donc c'est une forme qui vraiment l'intéresse. En 1927, l'un des trois volets de la trilogie sur Jésus, c'est un mystère, c'est une pièce de théâtre, un mystère qui s'intitule Jésus contre Dieu et qui est sous-titré Mystère avec cinéma et musique. Et le dernier point qui me semble intéressant sur cette question des liens avec une certaine spiritualité, en tout cas avec celle de Barbus, c'est en définitive l'écho qu'on peut retrouver avec les idées défendues depuis assez longtemps finalement en Russie par une personnalité comme Anatoli Lunacharsky, qui a été une grande figure de l'intelligentsia socialiste de la première heure dans les années 1902-1905. En Russie, à une époque où Lunacharsky, qui va traîner dans ces milieux-là, va consacrer un gros ouvrage à la question, et c'est le titre de l'ouvrage, à la question des liens entre socialisme et religion. Et lui aussi va promouvoir ces formes anciennes d'art, médiévales souvent, et lui aussi va mettre sur le devant de la scène cette forme du mystère. Et en définitive, c'est à peu près tout ce qu'on a des orientations que Barbus entend donner sur la manière dont il conçoit la littérature prolétarienne. Je vous le disais, en fait, on est dans quelque chose qui est finalement très flou. Ce sur quoi on peut terminer et qui peut nous éclairer malgré tout, c'est dans cette série d'articles, il y en a quelques-uns par contre, dans lesquels il va donner, si vous voulez, des conseils à ses lecteurs, faire là pour le coup vraiment œuvre de critique littéraire, faire de la recension de livres nouvellement parus. Toujours est-il que dans ces conseils qu'il donne à ses lecteurs, il ne définit jamais pour autant les attentes qui sont les siennes sur le sujet d'une révolution matérialiste de la littérature, de l'enfantement, de l'art populaire de demain, comme il le disait, etc. Et qu'en définitive, c'est une des conclusions assez décevantes finalement à laquelle j'en suis arrivé à travers l'étude de ces différents articles, c'est qu'en fait, même les œuvres qu'il va promouvoir, dans celles-là, aucune véritablement ne correspond à l'idée qu'il se fait de la littérature prolétarienne, en définitive. Quelques noms reviennent malgré tout qui nous permettent quand même de comprendre un peu ce qu'il cherche à en dire. Il y a deux noms en particulier qui reviennent assez souvent, et deux noms d'écrivains pour lesquels on voit qu'il a une sympathie. Le premier, c'est Charles-Ferdinand Ramuse, dont il dit, dans une critique du grand roman La Grande Peur dans la montagne, il dit, il y passe chez Ramuse le souffle et l'émotion des vieux lieds, donc on voit bien la référence à ces formes anciennes, des vieux lieds limpides, et il y a aussi dans sa simplicité émouvante et sa pittoresque rudesse un rappel du style biblique. J'ai trouvé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, même dans l'Apocalypse, des tournures de phrases dont s'est certainement peut-être à son insu inspiré Ramuse. Donc tout le travail finalement que Barbus est en train de faire à ce moment-là de recherche sur les évangiles, l'Ancien Testament, la Bible pour la rédaction de cette trilogie consacrée à Jésus l'amène justement dans cette perspective-là. Le deuxième écrivain auquel il est vraiment attaché, c'est cet écrivain d'origine roumaine de langue française, Panaïti Strati. Il lui consacre un article qui s'intitule Les Haïdous, la réaction roumaine et Panaïti Strati. Et il écrit, le prolétariat français connaît et aime Panaïti Strati. Il fait solide et il fait grand. Il a la rudesse claire et l'idéalisme des imagiers d'autrefois. Encore une fois, on en revient à ces formes anciennes. Hein. Et on sent bien que ses livres sont construits avec des morceaux de sa souffrance et de la souffrance fraternelle des esclaves et des exploités, de ces damnés de la terre qui acceptent encore d'être des damnés. Donc il y a perpétuellement ce retour à ces formes anciennes, etc., à travers ici les imagiers d'autrefois. Je note incidemment, mais qu'il va consacrer tout un article à cette question-là, précisément quelques semaines plus tard, article qui s'intitulera L'art populaire, l'imagerie, où il retrace toute l'histoire de l'imagerie depuis la période médiévale, etc. De nouveau, à propos de Ramuse, il écrit: J'admire beaucoup Ramuse, je le tiens pour le meilleur écrivain actuel. La guérison des maladies et le règne de l'esprit malin, chef-d'œuvre d'écriture qui tranche rudement sur la production ambiante. Encore à propos de Ramuse, dans un article qui s'intitule Choses d'aujourd'hui et d'hier, il écrit: Il domine singulièrement les écrivains d'aujourd'hui, cela est un fait. Il les domine par la profondeur et la gravité de sa vision, la divination de l'essentiel qui lui permet de choisir dans le chaos des mots celui qu'il faut, la délicatesse aiguë et sobre qui atteint droit à l'émotion. Il reste un évocateur incomparable, un peintre des figures et des cœurs. Malgré tout, même s'il y a effectivement cette proximité dans l'esprit et dans le style, il y a une opposition sur les idées, sur lesquelles, là encore, Barbus redevient polémiste en écrivant: Je n'aime pas les idées de Ramuse, du reste, il n'en a guère. Il ne veut pas en avoir, il n'aime pas ça. Son idée, c'est le statu quo. Et bon, cette critique assez définitive, en fait, elle s'explique par le fait que Ramuse est proche de Jacques Maritain, il collabore à la collection du Roseau d'Or, autour desquels gravitent tous les cercles néotomistes, etc. Donc on voit bien à quoi il fait allusion. Du coup, c'est difficile, donc je livre les dernières critiques qu'il fait à propos d'écrivains de manière un peu brouillonne, mais parce qu'en définitive, c'est difficile de trouver du lien, parce qu'il n'y en a pas vraiment, et parce qu'on ne voit pas émerger une véritable ligne précise. Dans une critique qui est datée du 16 juin 1926, alors il dit à propos d'un bouquin de René Arcos qui s'intitule Autrui, donc René Arcos qui est proche de Romain Rolland et fondateur d'Europe, il dit: Beau livre. De haute tenue, de pure qualité, pas du tout social. Ce livre qui jette un coup de sonde dans les éternités de l'âme se présente en un style artiste plein de nuances, riche de trouvailles imprévues, auquel on peut tout au plus reprocher un usage un peu trop constant de la métaphore de grand format. Mais il y passe cette poignante impression de confession réelle, de bouleversement vécu par l'homme qui écrit. À propos d'Henri Poulaille, il écrit dans un article qui s'intitule À propos de la joie de vivre: C'est là un roman sain, amer et accusateur. Henri Poulaille, en un style simple, brutal, parfois un peu plus négligé que dans son livre Ils étaient quatre, harcèle les survivants de la guerre avec l'exigeante question: Te souviens-tu ou as-tu oublié? On voit encore une fois que là, quand il accorde une certaine sympathie à ces écrivains-là, c'est davantage du point de vue du style que toute autre chose. L'une des seules critiques, pour ne pas dire la seule, sur lesquelles Barbus ne nuance absolument pas son propos, c'est une critique qui est formulée d'un roman d'Andreas Latsko qui s'intitule Les hommes en guerre, dans un article qui s'intitule Le chirurgien des cœurs. Et il dit à propos de lui: C'est la guerre même, cette tempête au profil d'humanité, découpée en cauchemar par un visionnaire dont la nervosité délicate se tend et semble parfois près de se rompre devant l'horreur des choses. Il fouille la tragédie des hommes de fond en comble et le rend avec un paroxysme d'acuité qui atteint presque la folie dans le réalisme, et tout cela est humain à crier. On voit bien, même dans la formulation, finalement, de toutes les citations ici, qu'en définitive, lui-même se laisse emporter par un style qui fait que l'approche qu'il a de cet art prolétarien n'est finalement pas si matérialiste que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que on a pu avoir les échanges tout à l'heure à propos du feu d'Henri Barbus, justement, en disant que le feu d'Henri Barbus est toujours très lu parce qu'il est toujours considéré comme le roman le plus réaliste sur l'expérience des tranchées. En définitive, on s'aperçoit que pas tant que ça. On dit ça parce que Barbus a été l'un des premiers à trancher avec une vision va-t-en-guerre des tranchées, et que ça a été l'un des premiers à vouloir décrire les horreurs de la guerre telles qu'elles ont été. En définitive, on s'aperçoit quand on rentre un petit peu dans le roman qu'il n'y a pas grand-chose de réaliste dedans, et que ce style, justement, sur lequel s'appuie toute sa vision, le fait d'une certaine manière tomber dans le même écueil de sentimentalité, j'oserais dire, et c'est là la conclusion un peu finalement déceptive à laquelle j'en arrive, mais que lui-même ne donne pas finalement ici une vision tellement matérialiste de la manière dont il envisage véritablement les choses, en fait. Alors, pour conclure, puisqu'on n'a pas véritablement de vision qui nous est donnée dans les conseils qu'il va donner au lecteur, on ne peut que se reporter à la suite de son œuvre, ce que ça va donner. et la manière dont lui peut-être l'envisage dans sa propre manière d'écrire. Et là, je voudrais juste faire référence du coup à deux œuvres qui, à mon sens, représentent le mieux ce qu'il entendait dire dans ses 65 articles critiques ici. La première, c'est une œuvre qui est publiée ju juste avant cette période-là des articles, qui s'intitule Les Enchaînements. Ça date de 1925. Bon, c'est une œuvre qui est complètement tombée dans l'oubli. Les Enchaînements, c'est un roman assez dense dans lequel il entreprend de retracer toute l'histoire de l'humanité à travers un personnage central. Le point de départ du roman est très simple. On a un personnage qui vit dans son existence des moments où il est dans une sorte d'état second et il vit dans son esprit la vie qu'ont menée ses ancêtres. En fait, il part de l'idée qu'on a tous une mémoire génétique inscrite en nous et que on peut à certains moments être amené à revivre, mais matériellement, hein, l'expérience de ses ancêtres. Ça va être le point de départ du roman. Et en fait, ce personnage, au tout début du roman, alors qu'il est en train de rentrer chez lui, il monte l'escalier, il arrive devant chez lui et il tombe dans cette vision et il se revoit sous les traits d'un néandertalien, chasseur-cueilleur, etc. Et puis, donc on a toute cette évocation. Et puis ensuite, on va avoir l'ancêtre du personnage pendant l'Antiquité, pendant le Moyen Âge, pendant. Et en fait, ça va lui permettre ici, et c'est là, en définitive, la vision qu'il entendait donner et ce qu'il entendait amener. Finalement, c'est à travers cet éclairage qu'il va porter sur la psychologie, certes, de ses personnages, mais réussir à en faire la synthèse en ajustant l'individuel à l'intérieur même du collectif, et réussir à faire la synthèse entre les deux, justement, où l'individuel ne peut pas se dissocier du collectif. Et le deuxième exemple, c'est l'avant-dernière œuvre qu'il publiera, qui s'intitule Élévation. C'est le dernier roman qu'il publie, qui s'intitule Élévation. Et Élévation raconte le trajet d'un personnage en avion. Et finalement, ce motif de l'aviation va lui permettre de pouvoir aborder les choses, les paysages et les hommes d'un point de vue qui les implique très nettement dans le collectif, en fait, avec un regard de haut. Ce personnage-là va perdre son individualité petit à petit tout au cours de son voyage en se noyant dans le collectif qu'il va avoir sous les yeux en voyant ces masses d'hommes évoluer sous son regard d'aviateur. En définitive, on s'aperçoit que ce projet qui avait été le sien de pouvoir tracer les grandes lignes d'un art prolétarien auprès de ses lecteurs dans ses articles critiques, on a du mal, on reste un peu sur notre faim avec une vision finalement assez floue, assez peu définitive de sa vision. Et sans doute parce que lui-même est justement accaparé tellement par cette dimension mystique qu'il revendique très nettement à cette période-là, qu'il peine lui-même à pouvoir rester dans ce réalisme et ce matérialisme qu'il cherche à revendiquer à tout prix. Et ça va être toute l'ambivalence de ce Barbus de la deuxième période, à partir du moment où il va commencer à travailler sur Jésus, puisque c'est en définitive autour de cette question de la spiritualité que va s'orienter tout son travail. Alors d'abord avec cette trilogie sur Jésus, et je conclurai là-dessus, cet évangile selon Jésus dans lequel il raconte que Jésus est le premier marxiste de l'histoire. Donc on a un évangile selon Jésus qu'il alimentera avec un deuxième volume de cette trilogie qui en fait est un ouvrage critique d'analyse des évangiles pour montrer dans quelle mesure est-ce que son évangile s'appuie effectivement sur une analyse qui tient la route des évangiles. Et puis Jésus contre Dieu dans lequel il s'entendra à montrer que en définitive Jésus a ressuscité en URSS au milieu des années 20. Jusqu'à la conclusion qu'on pourrait qualifier de malheureuse de son œuvre, mais la dernière publication qui sera la sienne, c'est une publication qui date de 1935 et qui s'intitule Staline, un monde nouveau vu à travers un homme. Et là, on est dans la géographie la plus pure. L'aboutissement de son œuvre tendra à considérer que ce Jésus, finalement, des temps modernes, c'est Staline lui-même. Merci pour votre écoute.